Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Rétroviseur, une série du podcast d'Entretemps, revue numérique d'histoire actuelle.
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Solal Abélez, docteur en histoire médiévale. Sa thèse vient d'être publiée à l'École française de Rome sous le titre « Protéger, libérer, assujettir, l'expansion territoriale de la commune de Florence au XIVe siècle ».
Avec Louis Gentil, il revient sur un autre ouvrage, « Retour à l'horizon, historiographie du féodalisme », un ouvrage collectif publié en format numérique et qu'il a co-dirigé avec Blaise Dufal.
Bonjour Solal Abélez.
Bonjour.
Nous vous recevons aujourd'hui pour parler d'une publication en ligne que vous avez réalisée avec Blaise Dufal et qui s'intitule « Retour à l'horizon, historiographie du féodalisme ». Cet ensemble d'articles s'intéresse à une société savante, la Société d'études du féodalisme, active dans les années 1975-1982. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire cette société? Quels sont ses membres et qu'est-ce qu'ils y faisaient?
Oui, bonjour. Alors, cette société, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de recherche, ce sont des gens qui se réunissaient dans le cadre d'une association loi 1901 déclarée à la préfecture de police. Et donc, ils se réunissaient 3, 4 ou 5 fois par an, le samedi, pour réfléchir ensemble à la question du féodalisme. Et donc, ce groupe réunissait des historiens médiévistes, des historiens modernistes, des historiens contemporanéistes, mais aussi des anthropologues, des géographes et des gens venus d'autres disciplines.
Qu'est-ce qu'elle a produit cette société? Sur quel corpus documentaire est-ce que vous vous êtes basé?
Alors cette société, effectivement, elle a produit des fascicules. Chaque séance donnait lieu à une discussion. Cette discussion était retranscrite dans un fascicule et ce fascicule était envoyé à tous les membres cotisants de la société pour être relu et rediscuté ensuite lors de la séance suivante qui ouvrait sur un autre sujet.
Comment est-ce que vous êtes tombé sur ces fascicules? Comment est-ce que vous vous êtes dit il faut qu'on fasse l'étude de cette société compte tenu du fait qu'elle a laissé un corpus?
Alors effectivement, c'est important, c'est bien parce qu'elle a laissé un corpus qu'on a eu vent de l'histoire de cette société, enfin de l'existence de cette société, qui, il faut peut-être le préciser d'emblée, était complètement inconnue au moment où on a commencé à en entendre parler. Et si on en a entendu parler, on est au début des années 2010, c'est parce que Patrick Boucheron, qui travaillait beaucoup à l'époque avec Jean-Philippe Genet, Jean-Philippe Genet était une des chevilles ouvrières de cette société, en avait lui-même entendu parler. Et donc, à Blaise Dufal et à moi-même, il nous en a parlé un peu incidemment, en disant qu'il était tombé sur des fascicules produits par la société. Il nous a demandé si ça nous intéresserait de regarder de plus près. Et on a regardé et on a été très surpris par deux choses. D'une part, par le fait que les échanges dont témoignaient les fascicules étaient d'une très grande qualité, d'un très grand intérêt. Et puis, d'autre part, par le fait que beaucoup de gens avaient participé à cette société et des gens dont on ne se serait pas attendu à la présence.
Alors, pour aller un peu plus loin, vous avez commencé à citer des noms, vous avez parlé de Jean-Philippe Genet, vous dites qu'en fait, le groupe qui gravite autour de cette société est assez important. Donc, qui sont ces gens? Quelles sont leurs positions académiques? Et pourquoi est-ce qu'ils discutent du féodalisme à ce moment-là?
Alors, si on revient sur la genèse de cette société, on est donc dans le milieu des années 70. Il faut voir que c'est un moment d'effervescence, de bouillonnement intellectuel et politique. On est encore dans la foulée de mai 68. On est encore, disons, dans l'effet de souffle de mai 68. Et ces gens sont au départ assez homogènes à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. D'abord, au niveau générationnel, ils sont tous assez jeunes. Ils ont, en gros, au milieu des années 70, tous au plus 40 ans, mais en général moins de 40 ans. Ils sont tous déjà dans une position institutionnelle établie, c'est-à-dire qu'ils sont tous, sauf exception, titulaires à l'université. Et puis, ils sont tous, ou presque, engagés politiquement. Ils militent tous à gauche. Et donc, ces gens qui décident de se réunir, eh bien, ils estiment que disons qu'à l'université, là où ils sont en poste, il n'y a pas d'espace pour échanger de manière plus libre que dans le cadre encore très corseté des cours. Et donc, ils décident de créer cet espace en dehors de l'université pour avoir justement un environnement plus libre d'échange. Et ils le font sous la houlette. Alors, je disais que c'est assez homogène générationnellement, mais ils le font quand même sous la houlette de quelqu'un qui est un petit peu plus vieux et qui est déjà un peu plus célèbre, qui s'appelle Guy Bois, qui est sur le point de publier un livre qui fera beaucoup de bruit, qui s'appelle « Crise du féodalisme ». Et ce Guy Bois, qui est donc à 10 ans de plus que les autres, lui a une trajectoire intéressante. C'est un membre important du Parti communiste et qui était aussi un membre important d'un groupe de recherche lié au Parti communiste qui s'appelle le CERM, le Centre d'études et de recherche marxiste, qui est un centre qui avait été fondé en 1960. et donc qui, adossé au Parti communiste, essayait de faire avancer la recherche sur, pour aller vite, le marxisme. Et au sein de ce premier groupe, donc le CERM, il y avait Guy Bois, qui en était un membre important. Mais ce Guy Bois estimait que c'était trop tenu par les instances du Parti communiste et qu'il n'y avait pas, là non plus, la place pour un échange vraiment libre. Et donc, il décide, le mot est un peu fort, mais on va quand même l'employer, de faire scission, de quitter le CERM et d'emmener avec lui un groupe donc, de gens qui sont un peu plus jeunes, mais qui fréquentaient aussi le CERM et qui vont constituer le noyau de la société d'études du féodalisme. Donc, pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un contexte d'effervescence politique et intellectuelle et c'est un contexte aussi où on réfléchit beaucoup autour du marxisme et où on essaye de trouver des espaces qui soient moins corsetés, soit qu'à l'université, soit que dans le cadre du Parti communiste.
Alors, cette publication, Retour à l'horizon, est un objet qui est assez particulier pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une publication historiographique, c'est-à-dire qu'elle contribue à faire l'histoire de la manière dont on écrit et dont on pense l'histoire. Et je trouve que c'est devenu assez rare ces dernières années dans le monde des publications historiques. Pourquoi avoir choisi ce type de publication historiographique ? Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet ?
Bah, parce que je pense que l'historiographie, je considère que c'est un domaine de recherche très intéressant. Et à mon avis, il y a trois niveaux d'intérêt pour ce domaine de recherche. Le premier, qui est le plus évident, c'est que quand on fait de l'histoire, mais si on considère que l'histoire a une certaine prétention scientifique, et ce que je vais dire est vrai de toute science, quand on pratique une discipline scientifique, on n'est jamais le premier à le faire. Et donc, on fonctionne toujours par stratification, par accumulation de connaissances. Et la première chose qu'on doit faire quand on s'intéresse à un objet d'étude, c'est d'essayer de comprendre ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été dit sur cet objet d'étude, parce qu'on ne part pas de zéro. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent l'état de l'art. Bon, premier niveau d'intérêt de l'historiographie, savoir ce qui a été fait avant pour pouvoir continuer quelque chose. Le deuxième niveau, qui est un peu plus important à mon avis et peut-être un petit peu moins évident, c'est qu'en faisant de l'historiographie, on se rend compte souvent que tel ou tel objet d'étude, justement, qu'on a décidé d'étudier, eh bien, il a été, je le disais, étudié par des générations précédentes et il a été étudié avec des biais. On s'en rend bien compte, chaque génération à ses obsessions ou à ses problématiques propres qui sont toujours liées au contexte dans lequel vit ou vivent ces générations. Ce souci de réflexivité permet quand soi-même on essaye de faire l'histoire, de travailler sur un objet d'étude, de se méfier de ses propres biais, des propres biais qui sont, disons, imposés par le contexte dans lequel on vit. Donc c'est une sorte de pratique, disons, intellectuelle, historiographique, qui nous permet toujours de mettre à distance ou en tout cas d'être conscient de l'influence du monde dans lequel on vit et que quand on fait de l'histoire, on la fait toujours dans le présent. Et donc, il nous arrive quand même bien souvent de, sans s'en rendre compte, parler davantage du présent que du passé qu'on prétend étudier. Si on va au bout de cette réflexion, il y a à mon avis un troisième niveau d'intérêt de l'historiographie qui constitue une sorte d'inversion de perspective. C'est-à-dire que si on va vraiment au bout de ce type d'étude, d'essayer de comprendre comment les gens à une époque donnée ont abordé un objet d'étude, par exemple comment est-ce que dans les années 70 des historiens et des historiennes ont essayé de réfléchir au phénomène du féodalisme dans le cadre de la société médiévale ou de la société moderne, eh bien on se rend compte qu'on arrive à avoir beaucoup d'informations sur les années 70, c'est-à-dire c'est pour ça que je parlais d'inversion de perspective. On peut très bien imaginer que c'est faire l'histoire des années 70 que d'aller voir ce que ces historiens et historiennes pratiquaient comme type de recherche dans les années 70. Alors, ça peut être une histoire intellectuelle des années 70, quels outils conceptuels ils utilisaient, quel type de réflexion théorique ils menaient, mais ça peut être aussi une histoire sociale, c'est qui faisait de la recherche à ce moment-là, de quelle manière, avec quels moyens financiers, etc. Et finalement, je trouve que ce volume démontre bien ça. On en arrive à mieux comprendre. Au départ, on étudie enfin, l'objet d'étude, c'est le féodalisme, c'est donc, on pense, la société médiévale, mais en se penchant sur les travaux des années 70, on en vient à faire un ouvrage qui est aussi un ouvrage d'histoire des années 70, des pratiques de recherche des années 70, des pratiques politiques des années 70, et c'est en cela que c'est l'emboîtement de ces différentes dimensions qui me paraît particulièrement intéressant.
Vous publiez ces fascicules, donc j'enjoins toutes les personnes qui nous écoutent à aller les lire si ça les intéresse. Cette publication, elle est en ligne et totalement gratuite. On vous mettra d'ailleurs les liens sur le site de la revue. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez produit cette publication à la fois en lien avec une volonté d'édition, c'est-à-dire que vous avez édité ces fascicules qui n'étaient pas accessibles, et vous avez aussi fait un retour, c'est-à-dire que vous avez été interrogé les personnes encore en vie qui ont participé à cette société, et vous leur avez demandé non seulement d'expliquer la démarche, mais aussi de raconter les éléments dont ils se souvenaient comme étant les plus marquants des réflexions qu'ils avaient eues à ce moment-là. Et ce qui est assez intéressant, mais vous allez peut-être nous en parler, c'est que les souvenirs divergent parfois, et que les récits, que ce soit ceux d'Alain Guéraud, ceux de Jean-Philippe Genet, proposent des versions un petit peu différentes, parfois, de cette histoire, et c'est assez intéressant de l'observer. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect d'entretien, en tout cas, ou sur les discussions que vous avez eues avec les anciens membres de cette société ?
Alors, peut-être quand même pour préciser la manière dont on a construit l'ouvrage, donc au départ, on s'est retrouvé avec ces fascicules, qui nous paraissaient tout à fait passionnants, et c'était la seule trace qu'on avait de cette société. À partir de ces fascicules, on a établi une liste de noms qui apparaissaient justement dans les fascicules et qui donnaient un premier indice des participants à la société. Donc, une fois qu'on avait cette liste de noms, on a contacté tous les noms et on a demandé à toutes les personnes dont on voyait le nom dans les fascicules si elles étaient d'accord pour faire un entretien. Très peu nous ont répondu, enfin, plus exactement, beaucoup nous ont répondu en nous disant toutes que c'était un très bon souvenir, mais très peu ont accepté de faire un entretien, et il y a 5 personnes qui, en fin de compte, ont accepté de faire un entretien, dont 4 qui faisaient partie du noyau, fondateur du groupe. Et effectivement, les entretiens, le jeu, ça a été d'essayer de confronter les informations qu'on pouvait tirer des documents qu'on avait. Alors là aussi, je précise que au départ, on n'avait que les fascicules, mais ensuite, en contactant les gens, on leur a aussi demandé s'ils avaient encore des archives de la société, et certains en disposaient encore et nous les ont aimablement transmises. Et donc, ces archives, elles étaient constituées non seulement des fascicules, mais aussi de beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de littérature grise, c'est-à-dire, par exemple, un certain nombre de documents préparatoires aux séances, mais aussi des choses qui peuvent paraître plus triviales, mais qui sont très intéressantes quand on est historien, des listes de présents aux séances, des projets avortés, c'est-à-dire qui n'ont jamais été réalisés, mais qui ont été quand même pensés et rédigés de recherches collectives, des lettres, quelques comme ça, exemples de correspondances aussi, c'est très intéressant, avec d'autres historiens ou d'autres chercheurs, non seulement français, mais aussi européens, mais aussi australiens, mais aussi soviétiques. Donc ça montre qu'il y a eu un écho, disons, de ce groupe en dehors de France et un peu dans le monde entier. Bon, et donc on avait d'une part tous ces documents de différents ordres, disons, et puis d'autre part la parole, 40 ans ou 45 ans plus tard, des témoins. Et effectivement, c'était à la fois amusant et surtout intéressant de confronter les deux, les informations qu'on tire des documents et les informations que donnent les témoins, donc 45 ans plus tard. Et oui, très souvent, ça diverge. C'est là qu'on voit que la mémoire joue des tours, même aux historiens. Ils sont parfois en contradiction, parce qu'ils disent, entrent parfois en contradiction avec ce qu'on trouve dans les documents. Alors, il ne s'agit pas de passer au crible de la vérité et de dire celui-là a tort quand il dit ça, puisque le document A prouve que c'est le contraire. Il s'agit plus de comprendre ce qu'il reste dans la mémoire de ces historiens, de cette expérience qu'ils ont vécue assez intensément. Et voilà, donc je pense que l'un des grands intérêts de cette publication, c'est de donner à voir ce va-et-vient entre les archives et le regard rétrospectif des témoins.
Oui, justement, en tout cas, c'est ce qui vous est permis par le fait d'avoir fait une publication en ligne, c'est-à-dire que vous rendez possible l'utilisation par des liens hypertextes, vous renvoyez directement à des morceaux d'entretien, à des pages directement des fascicules et aux autres archives que vous avez participé à éditer. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette volonté de faire une publication en ligne. Est-ce que pour vous, c'était un impensé ou est-ce qu'au contraire, ça a été une volonté dès le départ ?
Non, ça a été une volonté dès le départ et je dirais qu'il y a trois raisons à cela. La première, c'est le volume que représente justement ce volume. C'est-à-dire que avec tous les documents d'archives, avec toutes les transcriptions d'entretiens et avec aussi les analyses historiographiques qui constituent la troisième section du volume et qui essayent de revenir aujourd'hui sur la question du féodalisme, tout fait à peu près, je pense, dépasse les 2000 pages. Et donc, il était impossible de trouver un éditeur qui serait prêt à publier un volume de plus de 2000 pages. Et donc, la première raison, c'est une raison purement matérielle, étant donné l'ampleur de l'ouvrage, il était beaucoup plus commode de le publier de manière numérique. La deuxième raison, c'est qu'on voulait absolument donner un accès libre et exhaustif, gratuit, à ces réflexions, à ces différentes sections, que ce soit les documents, les entretiens ou les analyses historiographiques faites aujourd'hui. Donc, un accès libre, c'est ce que nous permettait la revue L'Atelier du CRH. Et la troisième raison, comme vous venez de le dire, c'est peut-être la plus importante, c'était, et c'est en écho aussi avec ce que j'ai déjà dit, c'était de donner la possibilité à tous les curieux, à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce thème, de faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire ce va-et-vient permanent entre les différents niveaux, entre les documents, les entretiens et les articles d'analyse historiographique. Et effectivement, ce format de publication permet très facilement ce va-et-vient, cette confrontation. Je vous donne un exemple simple. Si dans un entretien... quelqu'un, je ne sais pas moi, Jean-Claude Schmitt, par exemple, qui est l'une des personnes avec lesquelles on a fait un entretien, évoque une séance précise, le lien hypertexte permet d'aller voir immédiatement la séance dont il parle, d'avoir le document issu de la séance dont il parle sous les yeux tout en lisant son entretien. Bon, c'est assez prouvé hein, comme méthode, mais je trouve que ça marche très bien. Et voilà, et c'était l'intérêt du format numérique.
S'ajoute à ça, donc non seulement le fait qu'effectivement, il y a de l'édition, il y a cette navigation rendue possible entre les articles et les éditions de documents contenus de ces liens, mais il y a aussi ce que vous avez appelé les données de la recherche, et ça, c'est vous qui vous en êtes particulièrement occupé. Vous avez parlé tout à l'heure des listes de noms, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces tableaux et de la reconstitution de cette prosopographie de la Société d'études du féodalisme ?
Une des questions qu'on s'est rapidement posée, c'était qui avait participé à ce groupe d'études qui s'appelait la Société d'études du féodalisme. Pour répondre à cette question, on avait donc à disposition tous ces documents, et en particulier, comme vous le dites, la liste des présents. Alors, vous pourrez aller voir sur le volume numérique, les listes des présents, il faut imaginer que ce sont des listes manuscrites, évidemment pas toujours bien écrites, où on a comme ça des noms, une série plus ou moins longue de noms. Je crois qu'en tout, on a presque une vingtaine de listes de présents, ou disons 20 listes de présents différentes, donc qui correspondent à 20 séances. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'identifier tous ces noms et de tirer quelques informations à partir de ce premier point. C'est-à-dire, par exemple, quand on voyait le nom de quelqu'un, en général, c'était des noms qui nous étaient inconnus, de savoir quand cette personne était née, donc pour la replacer dans un cadre générationnel, de savoir si cette personne avait ensuite mené une carrière institutionnelle ou pas, si c'était le cas, dans quel domaine de recherche, que c'était un historien ou une historienne ou pas. Bon, des choses comme ça pour ensuite avoir un regard d'ensemble pour pouvoir évaluer, disons, l'origine des participants. Et on a réussi effectivement à rassembler presque un peu moins de 250 noms, ce qui montre quand même déjà, ce qui donne une indication intéressante, c'est que c'est un groupe qui donc a été fréquenté par à peu près au moins 250 personnes, parce qu'il est évident qu'il y a des documents qu'on n'a plus, et donc il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres personnes qui n'aient pas laissé de traces, mais qui aient participé au groupe. Donc si on part de ces environ 250 noms, eh bien, ce qu'on voit, c'est que on peut tirer des informations assez simples, savoir si il s'agit surtout d'historiens ou pas, s'il s'agit surtout de Français ou pas. Et là, on se rend compte justement que oui, il s'agit surtout d'historiens. Mais par exemple, quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est que c'est pas du tout que des historiens médiévistes. Or, au départ, il s'agit de travailler sur le féodalisme. Et aujourd'hui, on aurait un peu le réflexe de penser que le féodalisme, c'est une des grandes caractéristiques de la société médiévale et que donc c'est le champ d'étude des historiens du Moyen-Âge. Là, pas du tout. Il y a environ, sur ces 250 personnes, à peu près un petit tiers de médiévistes, mais ça veut dire qu'il y a deux tiers de personnes qui ne sont pas des médiévistes, et qui pour certains, enfin qui pour certaines plutôt, ne sont pas même des historiens. On a un contingent assez important, relativement, par exemple, d'anthropologues, et on a même aussi quelques philosophes. Le deuxième point, si on se fonde toujours sur cet essai de prosopographie, c'est qu'on voit que à peu près un bon tiers des participants ne sont pas français, ce qui est quand même considérable. Ça veut dire qu'on a pas loin de 80 personnes qui ont fréquenté plus ou moins régulièrement ce groupe d'études, et qui pourtant n'était pas français. Donc ça montre, enfin ça témoigne, disons, d'une volonté très nette d'ouverture internationale du groupe.
Justement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de la construction, enfin en tout cas de l'historiographie telle qu'elle se fait à l'époque à l'échelle européenne? C'est-à-dire, à la base, ce sont des Français qui l'ont créé, en tout cas le noyau dur est un noyau d'universitaires français. D'où viennent les autres Européens? Est-ce qu'ils sont rattachés à des universités particulières? Est-ce qu'on sait qu'il y a des liens entre les universités des créateurs et les universités de ceux qui participent, etc.? Qu'est-ce que ça nous dit à un niveau plus européen?
À un niveau plus européen, disons que ça montre qu'il y a une volonté, effectivement, ça je l'ai dit, d'établir des liens avec des gens qui ne sont pas nécessairement en France. Mais ça montre, une première chose, c'est que à l'époque, il est très difficile, justement, d'établir ces liens. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où c'est difficile à imaginer aujourd'hui, où le problème est peut-être inversé. Mais à l'époque, il y a très peu de rencontres internationales. Certaines sociétés savantes organisent un grand colloque par an, mais c'est tout. Pas plus. Et donc, il y a très peu d'occasions d'aller rencontrer des collègues qui travaillent hors de France. Et c'est très explicite dans les documents qu'on a retrouvés, produits par cette société. Il y a donc cette volonté de pallier ce manque, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'occasion de rencontrer des gens, les membres de la société disent « nous, on va les créer, cette occasion ». Et ils ont un lien, on pourrait presque parler de tropisme, vers l'Europe centrale. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'un des membres les plus assidus, disons, du groupe, qui s'appelle Daniel Tollet, qui fait l'histoire de l'époque moderne en Pologne, et qui donc, à cette époque, est déjà... très souvent en voyage en Pologne pour aller dans les archives, et qui s'est déjà constitué un réseau important avec les historiens polonais. Or, à cette époque, l'historiographie polonaise, ça c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas forcément en France, est en plein renouvellement et là aussi en plein bouillonnement. Et donc Daniel Tollet va donner accès à toute cette historiographie. Donc il y a un nom qui est le plus célèbre, qui est connu encore aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Witold Kula, qui va participer aux premières séances et qui lui-même va amener avec lui d'autres historiens. Donc tropisme vers l'Europe centrale à travers Daniel Tollet et la Pologne, et puis aussi tropisme avec l'Allemagne et en particulier avec des gens qui sont à l'université de Bielefeld, donc ils sont passés par l'université de Bielefeld, qui est à l'époque en Allemagne une jeune université, mais là aussi extrêmement dynamique, qui témoigne aussi d'une volonté de renouveler les pratiques de l'histoire. Et donc il y a des liens qui vont être établis assez vite avec des historiens allemands qui sont soit en poste, soit passés par l'université de Bielefeld, et qui vont venir régulièrement comme ça assister, participer, contribuer aux séances de la société. Et cette volonté d'ouverture, et en particulier d'ouverture vers l'Europe centrale, elle est importante parce qu'il faut comprendre aussi que on est à un moment où il y a encore ce qu'on appelle le bloc de l'Est. Or, je parlais de la Pologne. La Pologne fait évidemment partie à cette époque du bloc de l'Est. Et vous pouvez imaginer que les échanges, dont je disais qu'ils étaient déjà rares avec les étrangers, sont encore plus rares avec le bloc de l'Est. Et ce qu'on a découvert en travaillant sur les archives, puis en discutant avec les témoins de cette époque, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place des canaux d'échange avec tout ce bloc de l'Est, donc avec la Pologne, mais aussi avec quelques historiens soviétiques et surtout avec des historiens d'Allemagne de l'Est qui, là aussi, avaient très peu d'occasion d'échanger avec leurs collègues de l'Ouest. Et tout ça va se concrétiser, disons, va prendre forme dans le cadre d'un grand colloque qui sera le seul organisé par la Société d'études du féodalisme. Donc, je rappelle que la Société d'études du féodalisme, c'est les gens qui se réunissent le samedi 4 ou 5 fois par an à la Sorbonne, et donc ils ne sortent jamais de la Sorbonne, sauf à une occasion. Donc en 1981, ils organisent conjointement avec leurs collègues justement d'Allemagne un grand colloque à l'université de Trèves. L'université de Trèves, qui est une université très marxisante, bon, on sait que Trèves est la ville de naissance de Marx, et C'est encore un effet, un point important à cette époque. Et donc, il y a beaucoup de gens à l'Université de Trèves qui sont très intéressés par l'approche que proposent les gens de la Société d'études du féodalisme, disons, de renouvellement du marxisme. Et ce colloque de Trèves est organisé en mai 1981, réunit quand même une soixantaine de chercheurs. Alors, on a gardé la trace de 44 ou 45 contributions qui devaient être publiées, mais qui n'ont jamais été publiées jusqu'à notre volume, ou dans le cadre duquel toutes ces contributions sont publiées. Et ce colloque de Trèves, donc, qui s'appelle, le titre est assez simple, je crois que c'est « Sur le féodalisme en Europe », quelque chose comme ça, c'est le titre du colloque, réunit des Français, des Allemands, mais aussi, et encore une fois, c'est très très rare à l'époque, des gens qui viennent de RDA, des gens qui viennent de Pologne, des gens qui viennent de Hongrie, bref, des gens comme ça qui sont issus du bloc de l'Est. C'est un colloque qui est très long, qui dure 4 jours, et qui est assez intéressant dans la manière dont il est préparé, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient faire aujourd'hui, mais qui en fait se fait malheureusement très rarement. Toutes les contributions dont je parlais ont en fait été préparées à l'avance et ont été distribuées à l'avance. Quand je dis à l'avance, c'est plusieurs mois à l'avance. Et l'idée du colloque, c'était non pas de lire sa contribution pour les différents participants, mais de discuter les contributions que tout le monde avait déjà lues. Donc c'était un espace d'échange au sens fort du terme. Voilà. Et donc ce colloque a lieu en 1981 et on y reviendra peut-être, marque paradoxalement à la fois l'apogée et peut-être le début de la fin de la Société d'études du féodalisme.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe donc à la fin de ce colloque de Trèves? Il y a notamment une histoire drôle de qui rentre à quel moment, au moment de l'élection de François Mitterrand. Mais est-ce que vous pouvez aussi revenir sur pourquoi est-ce qu'à partir de ce moment-là, cette Société d'études du féodalisme se délite quelque peu?
Oui, alors on peut partir de la date du dernier jour du colloque. Il se trouve que c'est un dimanche et c'est le dimanche 10 mai 1981, donc jour de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Et donc, il faut quand même imaginer ces historiens, tous assez marqués à gauche, qui sont un dimanche matin, jour d'élection, et pas n'importe quelle élection, à Trèves, en train de faire les conclusions d'un docte colloque avec leurs collègues allemands ou est-européens. Effectivement, pour faire écho à ce que je disais sur la mémoire qui peut s'effilocher ou qui devient incertaine après un certain temps, je leur ai tous demandé, quand même, c'est étonnant, quand j'ai rencontré les témoins, vous qui étiez tous engagés à gauche, pour qui l'élection de Mitterrand pouvait représenter quelque chose, apparemment vous n'étiez pas en France ce jour-là, mais est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez voté? Alors, ils ont tous des réponses un peu différentes, et surtout des réponses divergentes, c'est-à-dire que contradictoires. Il y en a un qui dit non, en fait, on est rentré dès le samedi soir en train. D'ailleurs, je me souviens, on s'est bien marré dans le train, on a fait tel jeu. Bon, il a des souvenirs très précis de son train du samedi soir. Un autre qui dit non, on n'a pas pu rentrer en France, on était tous au Luxembourg parce que c'était sur la route le dimanche soir et on a vu la tête de Mitterrand apparaître à la télé chez un collègue au Luxembourg. Il y en a un troisième qui dit non, on est rentré dans l'après-midi. Et moi, d'ailleurs, j'étais en voiture et j'étais complètement bloqué parce que j'habitais à côté de la place de la Bastille. Bref, bon, donc, ils arrivent plus tellement en fait à se souvenir, enfin ils se souviennent, mais leurs souvenirs ne correspondent pas à une réalité objective. Ça, c'est un peu pour la petite histoire et c'est aussi pour montrer comment la mémoire peut jouer des tours. Mais plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette élection de François Mitterrand, effectivement, elle marque une rupture très nette dans l'histoire de la Société d'études du féodalisme, mais on pourrait dire aussi par extension dans l'histoire, d'une pratique, d'une certaine pensée critique. C'est très paradoxal, mais pour être un peu schématique, on peut dire que ça va complètement bloquer le développement de la pensée critique. Jean-Philippe Jeunet a une expression que je trouve intéressante pour décrire ce phénomène des conséquences de l'élection de Mitterrand. Il dit que ça a comme levé l'hypothèque marxiste. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous ces gens qui étaient dans l'opposition, en fait, au pouvoir, qui étaient justement dans une réflexion, ce qu'on appelle donc de pensée critique, ben c'est comme si finalement il n'y avait plus besoin de mener cette réflexion. C'est comme si les jeux en quelque sorte étaient faits et l'objectif était rempli. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est peut-être encore plus important comme conséquence, disons plus ou moins directe, de l'élection de Mitterrand, c'est qu'il faut se souvenir que cette élection de Mitterrand, elle est en partie fondée sur l'écroulement, le mot est un peu fort, mais disons la décomposition progressive du Parti communiste. Et il se trouve que le Parti communiste, avec tous les défauts qu'il avait, avait quand même une grande qualité, c'est que, surtout dans les années 60-1970, qu'on en fasse partie ou qu'on soit dans un mouvement critique, mais de gauche à ce parti, on était quand même très structuré par le parti. Et donc, c'était une sorte de pôle autour duquel on gravitait et qui proposait un certain nombre, disons, d'organisations. J'ai parlé du CERM et je disais que la Société d'études du féodalisme s'était construite en partie en opposition, mais en partie aussi en prolongement du CERM. Et on voit que toutes ces organisations, disons, construites avec, par ou contre le PC, elles vont assez vite s'effondrer. Après l'élection de Mitterrand, elles vont s'effondrer parce que le Parti communiste s'effondre. Et donc, on perd ce pôle, disons, qui pouvait guider à la fois l'action politique, mais aussi le développement d'une pensée critique. On voit ça, donc, au niveau de la Société d'études du féodalisme. Ce qui se passe, c'est quand ces gens rentrent de trêve, ils vont continuer à se réunir encore un petit peu. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit le délitement à travers les archives. Concrètement, ça veut dire que on a des traces de séances. Donc, au départ, les séances, elles sont, comme je le disais, retranscrites. Enfin, le contenu des séances est retranscrit dans les fascicules. On a encore un ou deux fascicules pour 1981-1982, mais on a aussi des traces dans d'autres documents de séances qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas donné lieu à une retranscription, comme si les participants étaient un peu découragé ou en tout cas payé moins, disons, à laisser une trace de leur recherche. On a encore quelques cassettes audio d'enregistrement des séances, mais comme je disais, qui n'ont jamais donné lieu à une retranscription. Et alors ça s'effiloche, et ce qui est assez fascinant pour un historien, c'est que on se rend compte que on n'est pas capable de donner la date de fin de cette société. D'ailleurs, officiellement, cette société existe toujours. Je vous avais dit au tout début de l'entretien que c'était une association qui avait été déclarée à la préfecture de police et elle n'a pas été dissoute. Donc, institutionnellement, la Société d'études du féodalisme, en 2023, existe toujours. Bon, on pourrait dire qu'elle a été mise en sommeil depuis, depuis quand justement ? Une date qu'on retient, nous, c'est 1983. Et je vais vous dire comment on retient cette date. C'est assez flou. On a une cassette audio où on a, sur le boîtier de cette cassette, une indication, le nom d'un type qui a parlé dans ce qui serait sans doute la dernière séance. On a une date 1983, mais sans précision, sans mois et sans jour. Et on sait par ailleurs, grâce aux entretiens qu'on a menés, que la personne qui a parlé, qui était donc un Allemand, était invitée en France à cette époque, donc en 1983. Donc ça concorde. Et je ne peux pas affirmer que c'est la dernière séance. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'à pour l'instant, c'est la dernière séance dont on a une trace. Donc, on peut considérer qu'à partir de 1983, la société est vraiment mise en sommeil. Alors, j'ajouterai quelque chose sur le délitement. J'ai beaucoup insisté sur le changement de contexte politique, et je maintiens que c'est très important, mais il y a aussi des raisons peut-être plus personnelles. Alors, il y en a une qui est un peu liée au changement de contexte politique, c'est que le grand leader de cette société du féodalisme, je l'ai dit, c'est Guy Bois. Or, Guy Bois lui-même est directement touché par l'élection de Mitterrand. Il avait beaucoup œuvré à l'union de la gauche dans les années et surtout les mois qui ont précédé l'élection, et il espérait en obtenir quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, il espérait avoir un poste relativement important, soit aux archives, soit dans le ministère de la Recherche. Et il n'obtient rien, c'est un peu le dindon de la farce. Et donc, il va en tirer une très grande amertume et avoir tendance à se refermer beaucoup sur lui-même. Et donc, étant de moins en moins dynamique, si on peut dire comme ça, il ne va plus jouer le rôle de moteur dans le cadre de la société. Et puis, toujours sur le plan personnel, mais cette fois moins lié au contexte politique, il se trouve que ce même Guy Bois s'entend de plus en plus mal avec un autre membre éminent de la société, avec un autre membre moteur de la société qui s'appelle Alain Guéraud, et les deux s'affrontent dans des joutes qui sont au départ des joutes intellectuelles, mais qui deviennent des joutes personnelles et qui commencent à lasser tout le monde. C'est tellement tendu qu'en fait, on ne peut plus les mettre ensemble dans la même pièce, si bien que les autres participants éprouvent une certaine lassitude, et donc perdent l'étincelle qu'ils avaient au départ. Et puis la dernière chose, c'est qu'ils évoluent dans leur carrière, tous ces participants, ils sont de plus en plus pris par leurs travaux individuels, ils ont moins de temps à consacrer à ce type de pratique collective de la recherche, et donc ils s'égayent un peu dans la nature, chacun de leur côté.
On peut donc dire que si jamais parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a des volontaires pour reprendre cette société d'études du féodalisme, qu'ils contactent Jean-Philippe Genet, qui est visiblement le détenteur des statuts de ladite association. Pour terminer, parce que vous avez parlé rapidement quand vous avez évoqué la liste des noms des membres, et aussi parce que vous avez évoqué le processus de transcription, j'aimerais qu'on termine cet entretien avec une dernière question. On a évoqué énormément de noms d'hommes depuis le début, et pourtant il y a des femmes dans cette société. Je voulais donc vous demander quelle était la place des femmes dans cette société, que ce soit les femmes membres ou les femmes de certains membres qui visiblement ont aussi joué un rôle important.
Oui, alors merci, c'est une bonne question, et c'est une question qui permet d'apporter un bémol à tout ce que j'ai dit jusque-là sur la société, ou à tout ce que j'ai laissé entendre, c'est-à-dire que là, je vais le dire plus explicitement, cette société, faire l'histoire de cette société, c'est très intéressant parce que ça donne à voir une pratique collective de la recherche dont on pourrait rêver aujourd'hui, ça donne à voir un dynamisme intellectuel, un dynamisme politique dont là aussi on pourrait rêver aujourd'hui, et donc ça laisse un peu songeur et ça pourrait laisser nostalgique. Heureusement, il y a cette question de la place des femmes qui permet de redimensionner la chose et d'être moins songeur et moins nostalgique, dans la mesure où ce qui est très très frappant, c'est à quel point les femmes sont reléguées tout en bas de cette société d'études du féodalisme. Alors, il y a deux femmes dont le rôle est très important dans le cadre de la société d'études du féodalisme. C'est une dame qui s'appelle Hélène Antoniadis Bibicou et puis une autre dame qui s'appelle Lucette Valency. Mais pour ceux qui connaissent, vous aurez repéré que ces deux femmes ont un statut un peu particulier pour deux raisons. D'abord, elles sont d'une génération antérieure à la plupart des membres de la société d'études du féodalisme, dont je disais qu'ils étaient très jeunes, enfin moins de 40 ans dans les années 70. Elles sont, Hélène Antoniadis doit être de 1922 et Lucette Valency 1936, donc elles sont d'une génération, voire d'une génération et demie avant. Elles ont assis leur carrière depuis plus longtemps. Et puis d'autre part, ce sont deux femmes exceptionnelles au sens propre. D'une part parce qu'elles sont, alors étrangères, pas exactement, enfin c'est vrai pour Hélène Antoniadis qui est en fait une grecque qui s'est installée en France et qui a obtenu la nationalité française. C'est pas exactement vrai pour Lucette Valency qui est née et qui a grandi en Tunisie, donc qui était à l'époque un protectorat français, mais donc qui avait quand même une position un peu décentrée, donc des femmes qui n'ont pas grandi, disons, au moins en métropole. Et puis d'autre part, des femmes qui étaient de grandes militantes politiques. Lucette Valency, à un moment, fait partie du Parti communiste, mais surtout a été une grande militante anticoloniale. Et puis Hélène Antoniadis, elle, une grande résistante en Grèce, d'abord au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite, en partie à distance, au moment du régime des colonels. Et puis elle aussi membre du Parti communiste, donc des femmes un peu exceptionnelles, justement. Et c'est pas un hasard si ce sont les seules femmes dont on peut voir qu'elles ont eu un rôle important. Pour le reste, ce qui est très frappant, et c'est qu'à deux niveaux, on voit à quel point les femmes ont un rôle mineur. Le premier niveau, c'est qu'effectivement, lorsqu'on regarde la composition des gens qui ont fréquenté la société d'études du féodalisme, c'est très majoritairement des hommes. Je crois que c'est presque trois quarts d'hommes pour un quart de femmes. Donc, il y a une majorité écrasante d'hommes. Le deuxième niveau, c'est que quand on parle avec les témoins, donc 45 ans plus tard, et qu'on leur demande pas directement quelle était la place des femmes, mais qu'on leur pose certaines questions, on se rend compte à quel point ils ont eux-mêmes intériorisé encore maintenant, rétrospectivement, ce rôle mineur des femmes. Par exemple, donc quand on leur demande est-ce que vous vous souvenez qui faisait le travail de transcription de ces fascicules, ils se souviennent pas très bien, mais évidemment c'était des femmes. C'était peut-être la femme de machin, c'était peut-être la femme de truc. Donc en général, en plus des femmes de membres, qui étaient donc les petites mains, qui pouvaient éventuellement participer aux réunions du groupe, mais enfin, qui étaient quand même beaucoup là aussi pour retranscrire, ou bien qui ne pouvaient pas participer pour une raison très simple, et ça c'est la femme d'Alain Guéraud, Anita Guéraud, qui l'a souligné lorsque j'ai rencontré Alain Guéraud, elle était présente aussi, et qui expliquait que c'est quelque chose d'un peu trivial, mais c'est souvent les choses les plus triviales qui sont les plus importantes. Les réunions avaient lieu le samedi. Or, le samedi, la plupart de ces gens avaient des enfants en bas âge, et donc il fallait bien garder les enfants. Et il était évidemment inenvisageable que ce soit les hommes qui gardent les enfants, donc les femmes qui souvent étaient, quand même, c'est un milieu assez endogène, étaient elles aussi dans la recherche, eh bien, elles devaient troquer leur casquette de chercheuse pour leur chapeau de mère le samedi, puisqu'il fallait garder les enfants. Donc, beaucoup de ces femmes n'avaient pas accès, tout simplement parce qu'elles étaient reléguées dans la sphère domestique.
Et quand on sait l'importance d'Anita Garou-Jalabert dans la production scientifique et dans la production commune et individuelle qu'ils ont fait, que le couple Guéreau a eu, c'est particulièrement intéressant de voir qu'elle-même s'en souvient et qu'elle l'indique comme étant quelque chose qu'elle considère avoir été empêchée de faire.
Oui, qu'elle a été empêchée de faire. Et puis, ce qui est frappant, c'est que 45 ans plus tard, quand on a décidé de faire cette publication et puis qu'on a contacté les gens pour faire des entretiens, on le voit d'ailleurs très nettement, ce sont que des hommes qui nous ont répondu, enfin qui ont accepté de faire des entretiens, sauf une dame qui s'appelle Marie-Louise Pelu, mais à mon avis c'est pas un hasard, c'est la seule qui a refusé deux choses. D'une part, de nous rencontrer physiquement, qui a tenu à ce que l'entretien ait lieu au téléphone, et surtout, qui a refusé que l'entretien soit enregistré, comme si elle était, disons, moins confiante en sa parole, en tout cas par rapport aux hommes qui, eux, étaient très contents de faire l'entretien, d'être enregistrés, qui ne voyaient aucun problème à ce que l'enregistrement soit retranscrit dans son intégralité. Donc on sent encore, 45 ans plus tard, l'écho de cette domination masculine qui est très très nette et qui donc permet de comprendre que c'était quelque chose de très intéressant, mais qui avait aussi ses limites, la société d'études du féodalisme.
Eh bien, merci beaucoup, Soulea Labelès, pour cette présentation de cette société d'études. Nous n'avons pas eu le temps de revenir très précisément sur toute la partie historiographique de cette publication, mais on invite les auditrices et les auditeurs à aller butiner ce site qui, comme vous l'avez bien souligné, peut être très foisonnant. C'est-à-dire que vous en avez pour 2000 pages, donc des heures d'activité s'offrent à vous. Je vous remercie grandement pour cet entretien et vous dis à bientôt.
Merci.
Cet épisode a été préparé par Louise Gentil et Aurélien Péter. L'entretien a été mené par Louise Gentil. La captation, le montage et le mixage ont été assurés par Anaïs Reinhardt.
Vous pourrez retrouver toutes les publications de la revue et les autres épisodes du podcast sur notre site internet entre-temps.net.
Bonne écoute, bonne lecture et à bientôt.